La baie de Sydney recouverte d'une épaisse fumée, un spectacle insolite mais inquiétant. Ce brouillard provient des feux d'un gigantesque incendie qui ravage deux parcs nationaux à moins de 100 km de la plus grande ville du pays. Les habitants sont stupéfaits.
C'est le pire que nous ayons jamais eu. Je n'ai jamais rien vu de tel. On fait de bonnes photos, mais c'est la seule bonne chose à dire sur le sujet.
Mon nez est irrité, ma gorge aussi. Quand je me suis réveillé ce matin à mon hôtel, j'ai pris un masque pour m'aider.
La situation est pire à moins de 1000 km plus au sud, dans l'état du Victoria, avec le départ de nouveaux foyers. La température qui dépasse les 40 degrés et les vents secs aggravent le risque d'incendie. 6 personnes sont mortes et des centaines de maisons ont brûlé. Les autorités mettent tous les moyens pour limiter la propagation d'un feu difficilement contrôlable.
Nous avons plus de 2000 pompiers et 300 camions qui luttent contre les flammes. 33 hélicoptères et avions sont également sur place. Nous allons nous battre avec tous les moyens pour réduire les risques de feu.
L'urgence code rouge a été déclarée dans l'État. C'est le niveau d'alerte le plus haut en cas d'incendie.
Et chaque semaine, grâce à nos invités, nous nous transportons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour y découvrir des territoires, des initiatives, des regards aussi, avec des chercheurs, des alerteurs, des acteurs de cette transition en cours. Aujourd'hui, direction l'Australie, mais aussi l'Europe, avec vous, Tim Flannery. Bonjour.
Bonjour. Hello.
Vous êtes paléontologue et farouche défenseur de l'environnement et de la planète. Votre dernier livre paru chez Flammarion s'intitule « Le supercontinent, une histoire naturelle de l'Europe ». On entendait à l'instant ce reportage diffusé sur France Info TV, les incendies en Australie. Ce reportage date du 22 novembre dernier. Des incendies qui ont touché l'Australie et plus précisément la région de Sydney. Est-ce que c'est une conséquence directe de notre planète en plein bouleversement ?
Looking short, yes it is.
Eh bien, écoutez, oui. La saison des incendies dans cette région dure 11 mois par an. Il y a quelques années, c'était 3 ou 4 mois. Il faut se souvenir que ces feux extrêmes se produisent au printemps, pas pendant l'été, pas pendant la période la plus chaude. Donc on va voir ce que l'été va faire. Mais je crains le pire, ça a déjà été désastreux.
Et alors l'Australie est un pays qui n'est pas le meilleur élève, Tim Flannery, en matière d'environnement et de lutte contre les réchauffements climatiques, on peut le dire.
Hein.
On mérite la cuillère en bois, vous savez, la cuillère en bois avec laquelle on frappait le bas du dos des équipes qui perdaient au football.
Parce que concrètement, qu'est-ce que vous vivez et quelles sont justement les politiques contre lesquelles vous vous élevez ?
L'Australie est en plein cœur d'une lutte énorme pour lutter contre le réchauffement climatique. De l'autre côté, on est le deuxième exportateur de charbon au monde et un des plus grands exportateurs de gaz fossile. D'un autre côté, on a la vaste majorité des Australiens qui sont en train d'être très inquiets par la perte de la grande barrière de corail. Donc la lutte est entre le gouvernement qui écoute à l'industrie de l'énergie fossile parce que les liens entre le gouvernement et cette industrie sont très forts. Mais on arrive à un point où quelque chose doit se passer.
Et alors, comment se comporte la société civile, justement, et ceux qui donnent de la voix, les opposants, ou même vous, qui pouvez aussi agir dans votre pays ?
Depuis 30 ans, je tente de persuader les gens de changer. Et je dois me rendre compte que nous avons atteint très peu de nos objectifs. Et c'est à la jeune génération maintenant qui d'abord manifeste et qui ensuite se rebelle, qui ont un plus grand impact. Mon message aux pollueurs, c'est il faut que vous vous posiez la question. Est-ce que vous serez pardonné parce que ce que vous faites, ce crime prémédité, tout le monde connaît le coût du changement climatique que vous infligez à vos enfants et aux générations à venir. Si vous ne pouvez pas répondre avec une conscience propre, eh bien, il faudra que vous changiez. Sinon, l'avenir sera très catastrophique pour vous.
Et selon vous, Tim Flannery, est-ce que ce super continent qu'est l'Europe, et vous nous le présentez comme une terre sur laquelle le vivant s'est hybridé, le sauvage et les espèces domestiques, et ce à cause de l'homme, est-ce que vous avez le sentiment que cette Europe dont vous nous parlez dans votre dernier livre est beaucoup plus vertueuse et qu'il y a de l'espoir de ce côté-là ?
C'est une histoire de 100 millions d'années. Je ne sais très pas si la vertu vient en ligne de compte. Mais il y a un environnement extrêmement dynamique. C'est le lieu où l'évolution est vraiment en cours. Et on voit innovation après innovation. Et c'est encore vrai de l'Europe. Vous dirigez le monde de ce point de vue-là. Si on fait des recherches dans ces forces de l'évolution qui ont donné forme au continent, moi, j'en ai retiré quelque chose comme si j'étais en train de raconter une histoire exceptionnelle, extraordinaire.
Mais c'est ce qu'on découvre dans votre livre. Il y a du positif, il y a du négatif. Mais vous nous parlez aussi de cette évolution de l'homme au fil de ces siècles, de ces millénaires. Mais vous nous présentez aussi cet homme qui est responsable d'extinction d'espèces et qui cherche même aujourd'hui à redonner vie à des espèces disparues par un jeu d'ADN.
Aucun doute. L'humanité est une des grandes forces de l'évolution qui agit au niveau de la planète. Et on a agi comme force d'évolution depuis des millénaires, en façonnant des lieux tels que l'Europe. Mais parce que nous vivons dans un monde interconnecté, cette pression de l'évolution nous revient à nous aussi. On ne peut pas s'échapper de ce mouvement des interrelations de l'évolution. Quand je regarde cette situation, celle de l'Europe, moi j'ai un sentiment d'acceptation. Vous savez, l'Europe, c'est le lieu de l'immigration. Au cours de millions d'années, des nouvelles espèces, des nouvelles formes de vie ont évolué, des nouveaux équilibres ont été créés. Tout ça a été détruit, puis ça s'est recréé. Ça donne un sentiment de tranquillité pour comprendre que c'est tel est l'avenir de l'Europe. Et c'est une bonne chose parce que l'Europe, c'est le lieu où tant de choses ont leur origine. Tant d'influences mondiales ont leur origine ici.
Alors, vous nous parlez aussi du réensauvagement. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont peut-être les lieux de réensauvagement que vous avez arpentés et qui vous tiennent à cœur ?
L'Europe est à la tête du monde pour le réensauvagement. Dans le sens que si vous pensez qu'il y a 70 ou 80 ans, chaque centimètre de l'Europe a été utilisé pour des productions humaines, d'une sorte ou d'une autre. Mais avec les révolutions économiques qui s'est produite après la Seconde Guerre mondiale, les lieux les plus difficiles ont été abandonnés, les vallées les plus hautes, les villages éloignés, et la nature a commencé à y revenir. Et maintenant, en voyant que ce processus prend un envol. 20 millions d'hectares seront abandonnés en Europe et la nature va reprendre ses droits. Donc la question face aux Européens, c'est est-ce qu'il faut laisser faire ou est-ce qu'il faut aider le processus ? Et moi, je suis en faveur, dans mon livre, qu'il aide ce processus parce que la nature commence avec ce qui est là. S'il n'y a pas suffisamment de place, la végétation peut réagir de façon contraire. Donc il faut réfléchir à ces terres abandonnées, comment optimiser ce qu'on va appeler la durabilité environnementale.
Et donc ça veut dire que vous comptez sur l'intelligence de l'homme, Tim Flannery, parce que vous parlez aussi de l'homme comme un homo stupidus.
Ah ben, on est un hybride entre l'homo sapiens et l'homo stupidus. Oui. Alors, lequel allons-nous favoriser ? J'ai une foi énorme dans la capacité des gens de travailler ensemble, d'avoir du bon sens. Et ça arrive de la meilleure façon dont on est exposé l'un à l'autre, dont on débat, dont on discute. De cette sorte, voilà, on peut y arriver. Cette discussion, ça peut fonctionner, ça fonctionne bien dans la politique européenne. C'est lent, c'est lourd, mais à la fin, ça nous amène dans la bonne direction.
Donc vous êtes un optimiste, Tim Flannery, même si dans votre livre, vous nous parlez de cette Europe qui est aussi celle du printemps silencieux, c'est-à-dire de la disparition des oiseaux, des insectes.
C'est C'est l'autre côté de la pièce. D'un côté, on abandonne les terres les moins productives. D'autre, on intensifie notre agriculture et nos travaux agricoles d'une manière qui signifie qu'on utilise plus d'insecticides, de pesticides, d'herbicides et d'engrais qui empoisonnent ces terres. Et on le voit partout, on le voit en Allemagne, en France. Les résultats ne sont pas bons pour la nature ou pour le genre humain. Donc il faut repenser à la façon dont on le fait. Moi, je suis technologiquement optimiste. Je vois en Europe, il y a les plus belles innovations dans le secteur agricole. Dans certains endroits, on voit un hybride entre le réensauvagement et la production durable. On voit aussi une intensification. Une entreprise, Solar Foods, en Finlande, cherche à faire grandir des produits agricoles dans des silos. Imaginez si on arrivait à faire cela dans des silos en utilisant l'énergie éolienne. Mais tout ça est possible. Donc, nous allons voir avec le temps.
Et ce genre de développement n'existe pas en Australie ?
Non. Imaginez un tel espace avec 25 millions d'habitants, loin du reste du monde. Les choses dans lesquelles on travaille, c'est, par exemple, c'est la compagnie aérienne. On a la meilleure compagnie aérienne du monde, mais dans les autres domaines, nos innovations ne sont pas terribles.
Alors, quand on s'est rencontré, Tim Flannery, pour l'émission La Marche des Sciences, c'était en décembre 2015, vous aviez fait l'achat d'un véhicule hybride. Où en êtes-vous de votre implication citoyenne ?
Je crois qu'il est très important de faire ce que l'on peut en tant que citoyen. Mais il faut faire très attention. L'industrie ne nous fasse pas porter tout le poids sur nous en tant que citoyens. Parce qu'il y a une limite à ce que nous pouvons faire. Et si nous sommes mis dans l'impossibilité par ce sentiment de nous sommes tous en train de travailler dans une société polluée, en utilisant des énergies polluantes. Nous sommes en transition. Ce que nous pouvons dire à l'industrie, c'est en notre nom, vous devez changer. Nous faisons ce que vous pouvez, mais vous devez prendre une partie du poids.
Et votre parole de paléontologue, donc vous la donnez à entendre à ces industriels ou dans certaines tribunes. Est-ce que vous avez les moyens, vous, des leviers peut-être pour faire passer ce message ? Et à l'aune, bien sûr, du travail que vous effectuez sur ces millénaires d'histoire que vous nous racontez avec cette évolution, bien sûr, et la main de l'homme.
En tant que paléontologue, j'ai un impact zéro sur l'industrie. Mais nous sommes tous des dirigeants, on peut tous être dirigeants de communautés. Vous savez, les jeunes, principalement, notre voix doit être entendue. Et il y a véritablement quelque chose de moral, de très important. Il ne s'agit pas simplement de faire un profit maximum aujourd'hui ou pour le prochain trimestre. C'est nous, en tant qu'espèce humaine, êtres humains, nos relations avec nos enfants et notre société. C'est là où il y a l'espoir pour moi, nous assurer que les gens comprennent cela, que ce qu'ils font en tant que dirigeants d'entreprise ou politiciens a un impact profond sur les générations à venir, sur leur famille et sur la société qui les entoure.
Vous parliez des jeunes à l'instant. Est-ce qu'il y a également en Australie un mouvement jeune puissant ?
Plus tôt cette année, j'étais dans une manifestation à Melbourne et il y avait la plus grande foule depuis la guerre du Vietnam. 150 000 jeunes devant le Parlement en disant « ces choses-là doivent changer ». Et le gouvernement hausse les épaules. Et alors ? S'ils n'y croient pas, il ne peut pas y avoir des manifestations de ce type sans qu'il y ait des changements. Il faut trouver une façon de continuer, il faut continuer à exercer cette pression.
Et donc à l'image des artistes, des The Freaks, des Chaka Pong qui étaient dans notre première partie d'émission, est-ce que vous avez le sentiment que c'est cette société civile qui fera bouger les choses ?
J'ai écouté à ce que vous avez dit, Chakapong, et c'était tellement important pour moi. Ça affecte ma façon. Il ne faut pas se sentir coupable soi-même. On change ce que l'on peut, mais il faut développer cette force d'indignation. Il faut dire au gouvernement, vous êtes en train de trahir vos enfants. Ce que moi je fais, ce que je dis aux gens qui nient le changement climatique, c'est arrêtez d'élever vos enfants. Vos arguments sont vraiment ridicules. Ce que vous dites, c'est dangereux.
Merci Tim Flannery.
Merci, thank you so much.
Et merci beaucoup à Michel Zodowski, notre interprète aujourd'hui. Et bien sûr, je rappelle le titre de votre livre, formidable livre, Le Supercontinent, une histoire naturelle de l'Europe, paru chez Flammarion. Et je précise pour nos auditeurs que nos coups de cœur pour cette fin d'année sont à retrouver sur le site de l'émission, comme par exemple l'Atlas des Nouveaux Mondes ou bien les Fleurs Amoureuses.